Merci d'être avec nous dans cette émission parce que on a souhaité vous accueillir. Ça fait un peu en urgence. Alors merci d'avoir accepté suite à une annonce parue hier dans le bulletin du CNPSA, un comité qui fédère un peu toutes les associations de déficients visuels, parce que vous organisez quelque chose de génial en février. Alors c'est vrai, c'est un peu rapide, mais peut-être qu'il y a parmi nous même quelques auditeurs qui ont la possibilité de se libérer, alors qu'on annonce du froid, de la neige, qui voudraient peut-être partir dans d'autres latitudes, découvrir d'autres horizons. Et donc vous organisez en février donc un voyage pour les déficients visuels donc au Maroc, une semaine. Alors déjà Gaëlle, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter cette association?
Oui, ben, ça fait 15 ans que mon père, on a l'association tous les deux, donc Jean-Claude et moi Gaëlle. Ça fait 15 ans qu'il parcourt le Maroc à travers les pistes avec son GPS, à la découverte des montagnes, du désert. Et c'est vrai que le Maroc lui a toujours plu par la grande diversité des paysages. Et donc au fur et à mesure, il est allé chez l'habitant, il a découvert de petites structures. Et l'idée lui est venue de faire partager tout ça à sa famille, dont moi, et puis à des amis. Et finalement, la petite association est devenue de plus en plus grande. Et maintenant, on propose des voyages sur mesure, hors des sentiers battus et loin du tourisme de masse, qui favorise vraiment l'authenticité, la rencontre, notamment avec la population berbère, qui est vraiment passionnante et très enrichissante. Et donc, on organise ces voyages. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec l'AVH de Montpellier. Et qu'on propose des voyages pour les déficients visuels parce que pour nous, on a fait des belles rencontres, notamment avec Jérôme qui va nous expliquer tout ça. Et voilà, l'envie de créer ensemble, d'aller à la rencontre et puis de permettre à des déficients visuels de voyager de façon normale, en petit comité et de manière originale.
Avant qu'on parle un peu plus de, bien sûr, des personnes déficientes visuelles, je crois qu'en général, là, c'est des voyages, je crois qu'ils se veulent solidaires, c'est ça, et avec des thématiques un peu particulières de la.
Oui, tout à fait. On a choisi des angles assez originaux, vu qu'on fait des voyages aussi trekking, donc toujours en petit comité, qui vont aller dans des vallées un petit peu perdues pour découvrir des univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. On fait aussi bien sûr du désert, on va sur la côte océane parce qu'il y a vraiment une très belle côte atlantique. Et puis on fait aussi des voyages féminins pour aller rencontrer les femmes berbères. Donc ça, moi, je pars avec des femmes et on va rencontrer les femmes et faire un voyage participatif avec de la poterie, du hammam. Du bien-être, de la cuisine, etc. Et puis on fait aussi de la découverte de manière générale et on a une option pour les déficients visuels.
Philippe, il avait une question?
Moi, j'ai une question. Déjà, bonjour à tous les deux. J'ai
Bonjour.
une question. Pourquoi avoir choisi le Maroc pour ce thème de voyage?
C'est vraiment la découverte de mon père il y a 15 ans qui a beaucoup voyagé dans le monde et qui s'est passionné pour ce pays par vraiment les gens et puis la diversité des paysages parce qu'on a vraiment l'océan sauvage avec la côte, on peut aller dans des campagnes, on peut trouver la haute montagne assez rocailleuse et puis il y a aussi le désert. Donc c'est vrai que tout ça à côté de la France, vu qu'on est à 2 heures d'avion, c'est vraiment pour nous un lieu où on a toujours plein de ressources et encore plein de choses à découvrir constamment.
Je crois que vous organisez des voyages qui sont vraiment près de la population, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas partir avec vous si on veut aller à la plage dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas du tout l'optique de la maison, quoi.
Non, pas du tout.
Vraiment, on travaille avec des familles pour aller dans des lieux qui sont atypiques et puis pour être au plus proche de la population, partager leur quotidien, pouvoir faire le pain le matin, voir comment on fabrique leur poterie de manière artisanale. C'est vraiment manger avec les doigts. Enfin, Jérôme pourrait en parler peut-être mieux que moi, vu qu'il a déjà
Tout
participé
à
plein
fait,
de
parce que
fois.
d'autant que Jérôme, tu me disais en préparant l'émission que tu as vraiment eu un coup de cœur pour le Maroc, toi aussi. Alors, peux-tu nous raconter un peu ton expérience?
Ah oui, moi ça, je connais le Maroc depuis 5 ans. La première fois où je suis parti, c'était donc à l'AVH, pour une semaine, quoi. Et là, on était parti pour faire un voyage très humanitaire, quoi. On a laissé des tandems, des ordinateurs à l'école de non-voyants sur Marrakech, voilà. Et à partir de ce voyage, je suis tombé vraiment amoureux des montagnes, de l'Atlas, des Berbères, quoi. Des randonnées, de faire des randonnées dans l'Oued, d'aller dormir dans le sable, c'est vraiment des choses très 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 émouvantes, quoi, qu'on ne retrouve pas chez nous, quoi, voilà, quoi.
Tout à fait. Par contre, Jérôme, si tu peux peut-être te rapprocher un peu de la base, peut-être de ton téléphone, je sais pas, il me semble que ça capte un petit peu moins bien, mais sinon on t'entend quand même. Et justement, un voyage, donc il y a ta passion bien sûr, mais est-ce que ce que je voulais te demander aussi, Jérôme, c'est quand on organise, donc tu t'occupes un peu de l'organisation, toi, pour les déficients visuels, je crois bien.
Oui.
Quelle est la différence, qu'est-ce qu'on prévoit de plus quand on organise un voyage spécifique pour les déficients visuels qu'on ne ferait peut-être pas pour un autre voyage? Quelles sont les particularités qu'on prévoit?
D'accord. Bon, ben on essaye, ben donc avec Gaël, on va voir un peu donc avant, hein, on essaye de voir que les WC soient bien adaptés pour nous les non-voyants, qu'il n'y ait pas des étages, qu'il n'y ait pas des marches qu'il faut monter et descendre. On essaye, chaque déficient visuel a son guide. Donc voilà, il peut toujours demander à son guide ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, ou enfin voilà quoi, on essaye d'adapter tout 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 pour que le déficient visuel soit bien quoi, qu'il lui manque rien, qu'il soit comme chez lui quoi, voilà quoi.
Et on travaille aussi beaucoup sur le tactile, sur les odeurs, sur
Oui,
l'approprier, le
voilà.
toucher, le fait de sentir, etc. Et du coup, on agrémente nos voyages de poterie et de cuisine, de bien-être, le hammam, etc., qui sont des moments qui sont forts aussi pour les déficients visuels.
Quand on va se promener sur les souks, c'est vraiment un grand bonheur de sentir les épices, de sentir les fruits, de sentir les poules, de se promener là-dedans, quoi, voilà, quoi. Et
Philippe,
ça, ce
j'avais une
sont des
question.
sensations qu'on retrouve pas chez nous, quoi, voilà. Des sensations sensorielles, voilà, quoi.
Oui, moi je voulais vous demander comment s'articulent un petit peu les déplacements et les transports pendant votre voyage. Vous marchez beaucoup à pied ou peut-être par d'autres moyens de transport, le 4x4 ou peut-être sur des animaux, je ne sais pas. Comment se font les déplacements?
Ça dépend des séjours et des parcours qu'on fait, voilà. Alors on peut se déplacer en 4x4, on peut se déplacer en randonnée, voilà. On marche, on va d'un habitat à un autre, d'une auberge à une autre, voilà. Ou sinon, on bouge aussi en taxi, quoi. On essaye de faire travailler les gens du village, quoi, le maximum, quoi. Donc on bouge en taxi ou alors en mule, voilà.
Justement,
Voilà.
Gaël, est-ce que tu peux nous donner, bon, sans rentrer dans tout le programme, on donnera aux auditeurs un moyen de te joindre pour avoir des précisions, mais un petit aperçu de cette semaine, ce qui va s'être proposé?
Oui, donc ça s'appelle l'immersion au pays berbère. Là, on part dans les montagnes de l'Atlas en février, donc avec des sommets enneigés. Et puis, on est accueillis dans une auberge que connaît bien Jérôme, qui est vraiment tenue par une famille pas comme les autres, puisqu'il y a la vache, des guides qui font vraiment un travail exceptionnel. Et puis, à partir de là, on va tourner autour, donc on fait une matinée poterie dans un village de potiers avec un potier où là on va apprendre à fabriquer des tagines. Donc ça aussi, si ça se passe bien, on pourra même en ramener après pour
Ah
faire
ben
notre souvenir de nos propres mains. On fait de l'initiation à la cuisine marocaine aussi, les tagines qui sont merveilleux, les pâtisseries, le pain, l'apprentissage du thé. On va faire des randonnées avec des mules dans les petites vallées avec les villages accrochés aux montagnes et puis aller dormir chez l'habitant. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il y
on va
aura.
aller dans un hammam aussi.
Oui, tout à fait. Il y aura du bien-être. Donc le hammam public pour voir un petit peu d'ambiance parce que c'est vraiment une pratique quotidienne chez les Marocains.
Oui, pareil, il n'a
Donc.
rien à voir avec les gazamans pour touristes, quoi. C'est pas.
Non, pas
Ah
du
non.
tout.
Ah, non, c'est très
Donc là,
bonne
c'est le
chose.
hammam où vont les gens pour se retrouver, pour échanger, pour passer un moment de détente. Donc ils font ça une fois par semaine. Et puis on fera aussi le hammam maison qui est chauffé au feu de bois, aromatisé aux plantes, où là ce sera plus intime en fin de voyage pour se détendre avant de rentrer. Participer au souk aussi d'Anizmi, qui est un village qui est au pied des montagnes. Donc de là convergent un petit peu tous les berbères qui descendent de leur village à plusieurs heures de mule. Donc ça, c'est une ambiance particulière. On n'est pas du tout dans le souk de Marrakech. Là aussi, c'est vraiment un lieu où les gens viennent se ravitailler pour la semaine, hein.
Tous les gens qui descendent de la montagne, c'est pour vendre ou pour acheter ce qu'ils ont besoin, quoi. Voilà.
Voilà, ce qu'ils ont produit, etc. Et puis, il y a un moment fort qu'on aime beaucoup, un lieu dont on est tombé amoureux et qu'on adore, qui est la bergerie. C'est une
Ah oui.
bergerie qui vient d'être restaurée à 2000 mètres d'altitude, donc dans un cadre magique et vraiment épuré. Et donc là, on va passer un jour pour se couper du monde, être vraiment en communion avec la nature et pouvoir aller découvrir à pied les petits villages qui environnent et qu'on n'aperçoit même pas de loin, qui sont vraiment bien imbriqués dans un décor qui est très très sympa.
J'avais une question, bon, on va dire pour Jérôme, même si Gaël pourrait répondre aussi, mais pour permettre de faire tourner la parole. Comme tu t'occupes, je crois, un peu du sport à la VH de Montpellier, bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, on pourra faire notre émission à ce propos. Mais je voulais savoir à quel type de public s'adresse ce séjour. Est-ce que c'est plutôt pour des tout public, être un peu sportif? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de marches quand même, qu'est-ce que tu conseilles?
Moyennement sportif, quoi.
Et au niveau des âges, du handicap, est-ce qu'il y a des critères particuliers à préciser ou pas?
Mais de l'handicap, il faut être, je pense, malvoyant ou non-voyant, quoi. Après, bon, ben, tous les gens qui sont sourds ou muets, il n'y a pas de problème. Ça crée vraiment, vraiment des problèmes sur les gens qui sont sur fauteuil roulant, hein, je peux pas dire le contraire, quoi.
Oui, on n'est pas encore en capacité de.
On n'est pas, ouais, voilà.
Vous avez des gens de tout âge qui participent à vos.
Ah oui.
Oui, il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Et puis, ce qui est bien aussi avec notre structure, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à chacun. On a fait ça sur le voyage qu'on a fait en octobre. Il y en a qui avaient plus envie de marcher, d'autres moins. Et on a su gérer le rythme de chacun. Et voilà, on est capable de le faire.
Grand sportif. Vous n'allez pas faire 20 km de marche par jour.
Non.
Si la personne veut le faire, oui, bien sûr. Mais on peut moduler. On peut moduler toute la journée. Pour 2-3 personnes, quoi. Ça c'est très très faisable à chaque fois. Hein.
Voilà. Les capacités de chacun sur le moment.
Oui.
Et il y a une autre chose moi, que je trouvais très originale, alors que des fois, c'est vrai, les associations elles font des gros voyages avec. Bon, ça, c'est une autre chose, parce qu'il y a des gens qui apprécient aussi, qui font des gros voyages avec 60 personnes, des gros cars, etc. Oui. Vous, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un tout petit groupe, je crois, que vous allez constituer.
Ah ben oui, c'est ce qu'on veut pas, quoi. On veut pas tomber dans la grosse structure des tours opérateurs, on veut rester à 4, 8, 10 personnes pour que ça reste familial, pour que ça reste convivial, enfin voilà quoi. C'est pas la grosse structure. Quoi.
Donc, une dizaine de personnes, tout le monde se connaîtra, ça sera bien sympathique.
Voilà. Tout à fait, on passe des bons moments simples et dans l'échange, on a bien le temps de discuter avec tout le monde et puis de passer un moment particulier. Le but, c'est vraiment qu'il y ait des liens qui se lient avec les Marocains. Et pour ça, quand on est trop, ça ne fonctionne pas.
Alors, comme le temps passe vite, on pourrait peut-être passer à des considérations un peu plus pratiques. Déjà, ce que je me demandais, en fait, donc, puisqu'on disait que chaque déficient visuel aura son guide, est-ce qu'il faut lui-même qu'il ait déjà un guide qu'il connaisse ou est-ce que c'est l'association qui va leur aider à trouver un guide? Comment ça se passe?
Ça peut marcher dans les deux conditions. Il peut venir avec son guide ou nous, on peut lui trouver un guide aussi. Quoi.
Voilà. C'est vrai, c'est intéressant parce que je pense par exemple à des couples de non-voyants qui voudraient venir. C'est possible éventuellement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait l'un des deux qui soit voyant ou...
Non. Nous on pourra leur trouver des gens qui leur serviront de guide. Quoi. Voilà.
Alors, les guides, c'est des guides de là-bas ou c'est des guides qui viennent de France? Est-ce qu'il y a des guides de là-bas, des Marocains qui font guide par exemple?
Et ça pourra être des guides des berbères que j'ai moi-même formé, quoi, voilà, quoi.
Justement, pardon, Gaël, je crois.
Oui.
Ah, je crois que tu voulais dire quelque chose. Donc, ça permet d'aller sur un autre aspect. Au niveau du tarif, justement, est-ce que le fait d'être non-voyant, ça rend le voyage plus cher? Est-ce que les non-voyants doivent prendre en charge son guide également? Comment vous avez évalué ça?
Non, il n'y a pas forcément de plus cher, ça demande une présence sur le terrain qui est plus importante et plus intense, mais non, pas du tout, on pratique des tarifs similaires sur d'autres voyages avec des voyants.
D'accord, donc c'est pas, on ne paye pas deux fois plus cher parce qu'on est non-voyant, quoi, il n'y a pas de souci.
Non. Moi, je pense qu'il faut mettre les deux personnes, autant les déficients visuels que les valides, sur le même pied, quoi. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait un qui payerait plus ou moins cher que d'autres, quoi. Il faut rester égaux, voilà.
Alors concrètement, justement, quand ça se passe, combien ça coûte? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Gaëlle?
Donc là, pour le voyage qui se prépare, qui sera du 13 au 20 février, on est sur du 750 € par personne, en dehors du transport aérien, parce qu'on n'est pas une agence de voyage. Donc c'est les gens qui ont à leur charge les billets. Et là, il y a des allers-retours. Actuellement, j'ai regardé aux alentours entre 150 et 200 € par personne.
C'est 450 € par personne? D'accord, je crois que c'est beaucoup plus cher. D'accord.
Voilà.
C'est bien ça, 450 par personne?
750 € par personne, et puis ensuite le transport aérien, oui, c'est entre 150 et 200 €
D'accord, et le tout en pension complète en plus, donc c'est très intéressant.
Tout à fait,
en pension complète. Et donc, vous n'êtes pas dans le voyage, mais ce matin, tu m'expliquais au téléphone qu'il ne faut pas que les gens s'angoissent, vous les aidez quand même, vous les conseillez sur les compagnies aériennes, tout ça, pour faire que tout le monde arrive en même temps.
Exactement, donc moi je fais des recherches préalables parce que les gens viennent de différentes villes. Donc je leur envoie toutes mes recherches les plus intéressantes au niveau des prix. Et puis ensuite, les gens ont seulement à faire la dernière démarche d'acheter leur billet. C'est juste que légalement, en tant qu'association, on ne peut pas faire cette démarche-là.
Philippe?
Oui, est-ce qu'il y a des démarches un petit peu à faire avant de partir en voyage, style vaccination, papier, tout ça, à voir, qui soit indispensable pour partir?
Alors aucun vaccin n'est exigé en particulier parce que ce sont les mêmes qu'en France. Ensuite, c'est bien de faire un petit bilan chez son médecin avant de partir pour voir si tout va bien, mais bon, rien de particulier. Et au niveau administratif, il faut par contre avoir un passeport valide 6 mois après le voyage, voilà.
Donc voilà, si vous n'avez pas de passeport, malheureusement, pour ce voyage, c'est trop tard. Mais j'imagine que vous en ferez d'autres.
Oui, oui, tout à fait. Mais sinon, aussi, vous pouvez penser à préparer un passeport. Et vu qu'on n'est pas dans une période débordante au niveau de la préfecture, j'ai un envoyant qui m'a contacté aujourd'hui qui n'avait pas de passeport et qui va pouvoir s'en faire un pour partir avec nous en février. Donc c'est possible donc, aussi.
C'est parfait, donc profitez-en. Il reste quelques places pour février, là, si on a quelques auditeurs, même peut-être un auditeur intéressé.
Oui, il reste de la place, tout à fait.
Donc, est-ce qu'on peut rappeler les dates et est-ce que tu peux nous donner les coordonnées, justement, pour ceux qui voudraient en savoir plus, recevoir le programme, etc.
Alors, c'est du 13 au 20 février, avec Azimut Voyage. Donc, je vais vous donner mon téléphone, Gaëlle, le 06 67 39 36 69. Et mon mail, contact@azimut-voyage.fr.
On rappelle peut-être une dernière fois le numéro de téléphone ?
Oui, le 06 67 39 36 69.
Mais merci à vous deux en tout cas. Allez, pas beaucoup, en 30 secondes, Jérôme, le mot de la fin peut-être ?
Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Ça, c'est bien sympa. En espérant que notre c'est bien parti et qu'on va continuer à trouver des déficients visuels qui veulent bien connaître le Maroc. Voilà.
Merci à vous deux en tout cas de nous avoir fait connaître votre petit périple. Bonne chance et on espère avoir de nouveaux nouvelles et on suivra votre actualité en tout cas ici dans le lien sur Radio Occitanie.
Tout à fait.
Merci à vous.
Bon voyage. Eh bien ok, je vous remercie.